Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 23 août 2021. Après une semaine que l'on va qualifier de compliquée, en tous les cas de la plus compliquée de ces trois derniers mois, les intervenants commencent cette nouvelle série de 5 jours avec des doutes plein la tête. Des interrogations toujours aussi intenses sur les intentions de la Fed et sur le développement du variant Delta qui commence à stresser tout le monde un peu partout. Peut-il encore ralentir l'économie et la Fed va-t-elle vraiment entamer un processus de tapering alors que l'avenir de la croissance est à nouveau remis en question? Vous aurez toutes vos réponses vendredi lors du traditionnel meeting de Jackson Hole virtuel. Enfin, normalement. Je ne vais pas revenir sur la semaine qui vient de se terminer, mais disons que lors de ces 5 dernières séances, on a quand même trouvé le temps de voir que la Chine devenait un vrai problème. Problème parce qu'elle est en train de fermer la plupart de ses ports pour cause de Covid, que les exportations en provenance de là-bas deviennent de plus en plus chères. Le prix de votre conteneur de 40 pieds a juste été multiplié par 10 en l'espace de 12 mois. Et en plus, avec les multiples confinements qui se déploient actuellement là-bas, on peut quand même craindre un ralentissement de l'économie chinoise elle-même. On ne va même pas aborder le sujet des big names de la tech chinoise qui se font déglinguer par les méthodes de Xi Jinping qui veut reprendre la main et montrer que c'est lui qui porte le pantalon. En plus de la Chine, on s'est aussi demandé si finalement le luxe n'était pas un peu surfait et que la crise dans laquelle nous sommes et celle qui nous attend si tout dégénère ne pourrait pas pousser les riches, les très très riches et les ultra riches à réduire leurs dépenses en cravate Hermès et autres sacs à main en plastique avec le logo LVMH dessus. Cette soudaine peur que les riches deviennent économes a fait s'effondrer tout le secteur du luxe en l'espace de 3 jours. Je n'ai pas refait mes calculs, mais il est bien possible que Bernard Arnault ne soit plus l'homme le plus riche du monde et que Jeff Bezos et sa fusée phallique soient à nouveau en tête. Enfin, vous avouerez que cette dernière préoccupation n'intéresse personne, mais que c'est un bon moyen de noter que LVMH a perdu 15% sur la semaine, pendant que Kering en perdait 20%. Donc nous voici au début d'une nouvelle semaine où on va se demander si le pire est derrière nous ou si les riches vont vraiment arrêter de consommer. À ce propos, je voudrais simplement faire un exercice avec vous tous. Supposez que vous avez vraiment de l'argent sur votre compte du style plus de 10 millions. Imaginez que vous avez envie de vous acheter un truc vraiment très cher chez Hermès ou chez Bernard Arnault, un truc qui coûte 25 000 euros et qui sert strictement à rien, mais qui fait super frime quand vous allez aller en boîte à Saint-Tropez la semaine prochaine, là où vous avez réservé une table à 9 000 euros payée d'avance. Est-ce que vous allez sincèrement vous dire « Non, eh ben moi je vais être raisonnable et je vais attendre la fin du Covid avant de dépenser mon argent et à la place je vais aller faire une marche en montagne et dormir en camping sauvage tout en mangeant une boîte de ravioli réchauffée sur le feu de camp ?» Ou alors allez-vous vous dire « Rien à foutre, je claque et on verra après. De toute façon, j'ai la moitié de mon pognon en crypto et comme j'ai racheté du Polkadot à 12 il y a 4 semaines, ça compense largement. Et tiens, d'ailleurs, en plus du sac à main à 25 000 balles, je vais aussi me prendre une montre à 15 000 et une cravate avec les oiseaux qui sont sur la branche dessus. » On ne va pas se poser des questions trop longtemps, mais il est plus que probable que la solution 2 l'emporte. Et pour être franc avec vous, je crois que lors des crises précédentes, ça n'a jamais trop choqué et les très très riches. D'ailleurs, ceux qui ont eu des problèmes durant les crises précédentes n'étaient pas trop clients chez Hermès, Kering et compagnie. Mais je me trompais. L'autre truc qui va nous occuper ces prochains jours, c'est la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Alors Jackson Hole, c'est dans le Wyoming, c'est un peu l'autre pays des cowboys. Et il y a des grands chalets, des forêts pour faire du cheval. Un temps, on a même pu voir plusieurs banquiers centraux se promener dans des forêts au soleil couchant en chantant « I'm a poor lonesome central banker ». Mais cette année encore, ça sera foutu, la colonie des banques centrales, puisque tout se fera online à cause du Covid. Encore lui. Néanmoins, nous allons tous patienter jusqu'à vendredi pour voir ce qu'ils ont à nous dire et s'ils ont l'intention de resserrer les boulons. Resserrer les boulons juste au moment où on a l'impression que l'économie pourrait être à risque. Plusieurs membres de la Fed ont d'ailleurs laissé entendre que leur décision par rapport au tapering pourrait être liée à l'évolution de la pandémie. Quoi qu'il en soit, ce que le monde merveilleux de l'investissement attend aujourd'hui, ça n'est pas de savoir s'ils vont stopper les rachats obligataires tout de suite et déjà fixer une date pour la hausse des taux, mais c'est plutôt de savoir à quel moment ils vont annoncer qu'ils vont éventuellement peut-être commencer à changer leur stratégie. En gros, Quand est-ce que le statu quo que Powell maintient depuis des mois va changer? Et on espère secrètement que tout ça va s'éclaircir vendredi lors du live stream de Jérôme Powell et ses amis. On peut rêver. En tous les cas, la seule bonne nouvelle que l'on peut retenir, c'est que l'inflation semble rester sous contrôle et que les Américains consomment toujours comme des fous et que ça ne ralentit pas de ce côté-là. Sans compter que l'emploi cartonne et que les sociétés continuent à engager comme des malades. Enfin, pour l'instant. Ce matin en Asie, c'est la fête au village, hein, donc il n'y a rien à se poser comme question. Le rebond de fin de séance de vendredi soir aux USA semble motiver le reste du monde à tenter quelque chose. La plupart des indices sont largement dans le vert à l'heure où je vous parle. Tokyo bondit de 1,7%, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un bon moment. Et pendant ce temps, Hong Kong prend 1,8% et la Chine avance de 1%. À l'heure actuelle, Xi Jinping n'a pas encore attaqué Alibaba ou Tencent, pas depuis 4 jours en tous les cas. Les futurs américains sont en hausse de 0,35% et semblent vouloir tenter quelque chose. En tous les cas, en regardant les graphiques du S&P 500 et du Nasdaq, si vous me dites que les deux indices vont toucher leur plus haut de tous les temps cette semaine, je ne suis même pas surpris. Toujours au chapitre des rebonds, on notera que le pétrole qui s'est fait massacrer ces derniers temps est en train également de tenter un rebond. Le baril se traite à 63,06 et a rebondi exactement là où il s'était arrêté au mois de mai. La moyenne mobile des 200 jours fait toujours office de barrage, un poil plus bas, mais pour le moment, c'est compliqué pour le pétrole. Et avec Biden qui veut que ça baisse pour juguler l'inflation et l'OPEP qui a rouvert les vannes, ça ne va pas être simple. Pour le reste, on retiendra que l'or ne fait rien et ne sert à rien et que le Bitcoin et l'Ether sont au plus haut depuis la chute du mois de mai. La crypto star vient juste de franchir à nouveau les 50 000 $ et il ne reste plus que 50 000 à gratter pour atteindre le niveau prévu pour Noël. Pour le reste, c'est l'euphorie un peu partout et même cette daube de Dogecoin est en hausse de 100% depuis le 21 juillet, sans oublier le Polkadot qui est en hausse de 175%. Tout comme le Cardano qui, lui, en plus, est au plus haut de tous les temps. On dirait que ça bouge à nouveau et on devrait rapidement entendre parler de gens qui arrêtent de bosser pour devenir crypto-traders. Dans les nouvelles du jour, on voit que Biden s'embourbe toujours un peu plus dans le retrait américain de Kaboul. Il parle déjà d'augmenter le deadline pour le retrait final alors qu'il n'arrive à rien là-bas. Plusieurs articles s'interrogent sur l'économie afghane, mais je crois que c'est plus par principe qu'autre chose. Autrement, certains espèrent que l'on voit le bout du tunnel dans le FT, alors que la date de la première du nouveau James Bond a été fixée. Le 28 septembre, le journaliste voit ça comme un signe de retour à la normale. Oui, les aventures d'un type qui roule en Aston Martin DB5 à 1 million, ça sent bon. Le retour à la normale. Autrement, si l'on regarde les autres headlines que l'on trouve sur le net, il faut tenir compte du fait que l'on commence à nouveau à entendre des critiques sur Elon Musk. Le fantasque patron de Tesla a encore fait parler de lui avec l'annonce de son nouveau robot humanoïde, qui sera destiné à faire nos tâches ennuyantes. On peut assez facilement se poser des questions et se demander comment le gars arrive encore à nous faire croire que son robot sera en vente et opérationnel quelque part durant l'année prochaine. Certaines voix s'élèvent pour dire que ce n'est que pour masquer le bruit de l'enquête du département de la justice sur son autopilote et sur ses voitures autonomes. Voitures autonomes qui étaient aussi censées être autonomes quelque part cette année, en 2021. Les levées de boucliers sont nombreuses et la crédibilité de Musk semble devenir fragile. Pendant ce temps, je suis tombé sur un fabuleux article de Katie Wood qui ose dire tout simplement... Nous n'avons jamais été aussi loin d'une bulle spéculative qu'aujourd'hui. Jamais été aussi loin. J'en reste pantois que l'on puisse dire un truc pareil. Tellement pantois que je trouve même pas les mots. On notera encore que le Barron's pense que Swatch se trouve à un niveau d'achat intéressant. Ça n'est pas tous les jours que l'on voit le Barron's s'intéresser à une action suisse. Et puis pour ceux qui aiment les statistiques, on retiendra que le S&P 500 n'a plus vécu un repli de plus de 5% depuis 200 séances. Ça n'est pas un record, loin de là, mais quand même, ça donne une idée de la force relative de ce marché. Pour ce qui est des chiffres du jour, on va bien sûr déjà se chauffer sur le discours de JacksonHole.com de vendredi, mais mis à part brasser de l'air, cela ne servira pas à grand chose. En attendant, nous aurons toute une série de PMI en Europe, en Angleterre et aux USA, histoire de faire passer le temps, et pour le reste, la journée devrait commencer en vert un peu partout, en espérant que les gens feront toujours la queue chez Vuitton à la rue du Rhône ce matin. Ce lundi, on retrouve le Focus US de Odo BHF avec une édition spéciale qui reprend tout ce que vous devez savoir avant Jackson Hole, et c'est à lire ci-dessous. Toujours concernant les marchés américains, notre partenaire Cantalis met dorénavant à disposition ses classements de fonds en actions US et ça se passe sur notre page classement. Nous sommes lundi, on attaque une nouvelle semaine, la dernière semaine d'été et la dernière à 3 chroniques par semaine. Si tout va bien, la semaine pro, on y retourne à 100%. Passez une très belle journée et on se revoit mercredi.